êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission préparée par Michel et Marie-Jo, l'heure flamande.
Et donc aujourd'hui, chers auditrices, chers auditeurs, nous allons évoquer la frontière. Alors, tous ou presque, vous êtes au moins rendus une fois sur le site du Mont Noir, le Mont Noir donc qui est sur la frontière franco-belge. Alors les plus anciens se souviennent certainement de ces règles qui étaient imposées, comme par exemple, il fallait que sa voiture elle porte l'autocollant avec le fameux F, bien sûr pour les voitures de France. Il fallait répondre bien sûr à la question rituelle du douanier. Rien à déclarer, ça fait d'ailleurs l'objet d'un film récemment. Il y avait souvent beaucoup d'émotions pour ceux qui franchissaient cette frontière pour la première fois. Moi, je me souviens en particulier de ce jeune douanier qui ordonne à mon épouse d'offrir le coffre de sa voiture. Nous avions à l'époque une coccinelle Volkswagen. Et voilà notre jeune douanier qui se dirige vers l'arrière du véhicule. Et là, évidemment, tout le monde sait que la coccinelle, à l'arrière, c'est le moteur qui s'y trouve. Et évidemment, quand on a ouvert le capot, le douanier était un petit peu vexé. Ses collègues dont se sont bien marrés, bien sûr. Lui, un peu vexé, nous a fait partir tout de suite. Évidemment, il n'a pas été cherché à faire ouvrir le coffre avant de la voiture. Alors encore aujourd'hui, il y a toujours une grosse activité le long de cette frontière, même si aujourd'hui, les guérites et les barrières ont disparu. Je vous citais tout à l'heure le Mont Noir, évidemment, il y a toujours cet attrait, parce que, tout simplement, par le jeu des prix plus avantageux sur certains produits, les Français vont en Belgique pour acheter certains produits, dont le tabac, pour ne pas le citer. Les Belges, viennent en France pour acheter, par exemple, l'eau, le soda, uniquement parce que c'est bien sûr moins cher que chez eux. Tout ça, bien sûr, par le jeu des différences de taxes.
soms verdriet. Denk dan aan de zon en zing dit lied.
Summers, let the zone in your heart, laisse le soleil dans ton cœur. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons donc la frontière, le Mont Noir que tout le monde connaît, le Zwarteberg, que bien sûr tous les gens de la frontière côté France fréquentent pour faire des bonnes affaires naturellement. Et au fait, depuis quand cette frontière date-t-elle? Cette frontière a-t-elle toujours été dessinée ainsi? Eh bien, faisons un petit retour sur l'histoire. La Flandre, comme le Hainaut d'ailleurs, furent coupées en deux. D'ailleurs, même la Flandre, elle est écartelée entre trois États, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Valenciennes, qui est au cœur du Hainaut, se sent bien sûr beaucoup plus proche de Charleroi, de Mons que de Clermont-Ferrand, par exemple. De même, Lille est beaucoup plus proche de Courtrai, de Gand que de Marseille. Mais c'est ainsi, un jour, donc, furent séparées ces villes qui ont eu pourtant pendant longtemps une histoire commune. On peut bien sûr se réjouir aujourd'hui de voir naître cette grande euro-métropole qu'est l'île Courtrai-Tournai, donc qui fait un peu fi de cette frontière franco-belge, mais rien n'est encore vraiment acquis. Cette frontière existe en fait depuis trois siècles. C'est en effet en 2013 que l'on a fêté les 300 ans de sa création. Cette schrive, comme on dit en flamand, cette déchirure fut établie lors du traité d'Utrecht en 1713. Ce traité mettait fin à une succession de guerres qui avaient ravagé, bien sûr, notre plat pays, qui n'était plus un champ de blé, mais un champ de bataille gorgé de sang. Ce traité apportait enfin la paix entre trois grandes puissances européennes de l'époque, qui se disputaient, bien sûr, des territoires. La France, avec son roi Louis XIV, l'Angleterre, qui cherchait bien sûr à prendre l'hégémonie surtout sur les mers contre l'Espagne, qui était à l'époque bien sûr une puissance européenne très importante, et aussi la République des Pays-Bas. Louis XIV aurait bien voulu d'ailleurs conquérir davantage de terres en Flandre, et pousser même la ligne jusqu'au Rhin, mais les guerres demandent beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes, et le royaume de France était épuisé. Donc le traité d'Utrecht mit donc fin à cette succession de batailles et apporta un peu de paix dans ce coin de l'Europe.
Seid-ihr startklar? Denn jetzt geht's richtig los.
Jetzt erst recht! Jetzt erst recht!
Du stehst noch vor der Tür, am liebsten wärst du abgehauen. Du fühlst, es brennt in dir, hast keine Lust mehr zuzuschauen. Heute Nacht wirst du erwachen, dein Puls fährt tierisch rauf. Du atmest noch mal ganz tief durch, dann gehen die Türen auf. Heute Nacht beginnt ein neues Leben, du sagst dir immer wieder, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Wir wollen auf dich die Gläser heben und singen deine Lieder. Lass uns diese Zeit genießen, als wäre heute für uns der letzte Tag. Drum lass uns die
die drei Worte schwören, alle sollen es hören. Jetzt erst recht, jetzt erst recht.
Tick, tack, die Uhren stehen, ab heute Nacht auf Sommerzeit.
Ich mag dich lachen sehen, so will ich das ne Ewigkeit.
Endlich soll der Startschuss fallen, zum größten Augenblick.
Du atmest nochmal ganz tief durch und es gibt kein Zurück.
Heute Nacht beginnt ein neues Leben, du sagst dir immer wieder,
jetzt erst recht.
Wir wollen auf dich die Gläser heben und singen deine Lieder.
Jetzt erst recht.
Jetzt erst recht.
Komm, lass uns diese Zeit genießen, als wäre heute für uns der letzte Tag.
Lass uns die drei Worte schwören, alle sollen es hören.
Jetzt erst recht,
jetzt erst recht,
jetzt erst recht,
jetzt erst recht.
Radio Plus sur 104.3, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons la frontière. Donc cette frontière, bien sûr, que vous franchissez quand vous allez voir le Mont Noir, par exemple, pour ne citer que lui, le Zwartberg. Et donc, nous évoquions, bien sûr, les ambitions du roi de France, Louis XIV, qui aurait bien aimé, bien sûr, pousser la ligne, la frontière jusqu'au Rhin, mais les guerres coûtent cher en argent, en hommes aussi, et le royaume de France était vraiment épuisé. Les caisses c'était vide et donc il fallait bien sûr à un moment donné arrêter ce massacre. Et donc en 1713 fut signée donc la paix de Utrecht entre les trois grandes puissances de l'époque, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Et bien sûr derrière il y avait la République des Pays-Bas qui était relativement récente puisque elle s'était affranchie de la tutelle de l'Espagne en 1648. Et donc bien sûr la République des Pays-Bas se méfiait beaucoup des ambitions françaises. Et elle était bien contente qu'il y avait une zone tampon qu'on appelait alors les Pays-Bas autrichiens. Les Pays-Bas, bien sûr, ainsi étaient un peu plus loin de la frontière qui est séparée de la France et qui apportait une relative paix. Bien sûr, il y a eu les guerres napoléoniennes hein, qui ont à nouveau annexé ce qui est aujourd'hui la Belgique, qui fut transformée et découpée en départements. Mais avec la chute de Napoléon en 1815, eh bien cette frontière qui avait été dessinée en 1713 fut en quelque sorte reconduite à quelques petites exceptions près. Ainsi donc, depuis cette époque, depuis 1713, eh bien nous avons donc cette ligne de frontière, cette schreve, comme on dit en Flandre, qui a coupé donc le Hainaut, la Flandre, en deux parties. Ainsi, eh bien, nous avons donc vécu depuis à l'ombre de cette frontière qui est un peu particulière, en effet, puisque il n'y a pas de frontière naturelle, hormis sur 16 kilomètres, il y a le cours d'eau, la Lys, hein, à hauteur de Comines, qui fait office de frontière entre donc la France et la Belgique. Mais sinon, eh bien, qui ne connaît pas cette zone eh bien, peut passer d'un pays à l'autre sans s'en rendre vraiment compte, puisque les paysages sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de barrière naturelle comme une chaîne de montagne, un fleuve. Non, rien de tout ça. Et seul, à une époque, bien sûr, dans certains points, il y avait naturellement des postes frontières, des bornes, qui délimitaient donc cette frontière dessinée en 1713.
Hey!
Deurzakers. La fête peut commencer, nous sommes dedans. Voilà, vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Que vous pouvez bien sûr aussi écouter sur le site internet de la radio www.radioplus.fr. Et donc aujourd'hui, nous évoquons cette fameuse frontière que chacun connaît bien sûr pour avoir fréquenté au moins une fois le Zwartberg, le Mont-Noir, et puis d'autres postes. Et justement, à l'époque, les plus anciens s'en souviennent, il y avait des postes de douane particulièrement importants, qui c'était des passages d'ailleurs obligatoires pour toutes les transactions de marchandises, comme par exemple le poste frontière Bredune à Dunkerque, Stenvoorde, Rekem, pour ne citer que ceci. Et donc à l'époque, bien sûr, eh bien, il fallait faire la queue, passer dans les postes de douane pour bien sûr s'acquitter de certains droits et puis aussi remplir des papiers pour transporter les marchandises. Sinon, bien sûr, ailleurs, eh bien, il n'y avait rien, comme je le disais à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous pouvez passer de France à Belgique sans vraiment vous en apercevoir par les petits chemins ruraux que l'on franchissait sans souci. Et d'ailleurs, je me souviens qu'enfant, avec mon frère, nous étions partis de Berg, donc la cité que vous connaissez bien avec le fameux film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. Donc de cette petite cité flamande de Berg, eh bien, nous étions partis rendre visite à un cousin demeurant près de Hanscott, donc qui est une ville frontière. Et puis, malheureusement, nous étions que des jeunes gamins, on s'est un peu égarés, et tout à coup, deux gendarmes à bicyclette nous ont interpellés. Alors évidemment, nous avons été un peu surpris, d'abord par l'habillement de ces gendarmes, qui ne ressemblaient pas, bien sûr, à ceux de la gendarmerie française. Ces deux gendarmes pensaient simplement avoir affaire à deux gamins qui faisaient l'école buissonnière. Les horaires de classe à l'époque étaient moins décousus qu'aujourd'hui, et ces gendarmes ignoraient tout simplement que nous bénéficions à l'époque donc d'une fête locale. Bon, père de famille, ils nous ont juste raccompagnés jusqu'à cette frontière, mais on ne voyait bien sûr pas de panneaux ni de poteaux qui nous disaient que nous étions passés donc d'un pays à un autre. Donc c'était pour nous une sorte de frontière invisible. Alors, il reste encore bien sûr quelques traces de cette frontière, malgré que avec l'Union européenne, celle-ci a été quasi gommée, en tout cas sur le terrain. Ainsi, eh bien, à Oskapel, donc tout près de Hanscott, eh bien, on a maintenu une guérite toute symbolique avec un douanier en statue, un douanier belge, et donc c'est un témoignage bien sûr d'une époque qui n'est pas si lointaine où les activités bien sûr aussi de contrebande, de tabac en particulier, étaient très importantes et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre que chacun connaît de Maxence van der Mersch, La petite maison d'Aladun, qui relate donc bien sûr cette bataille entre les douaniers et les contrebandiers, ces combats entre les chiens de fraudeurs qui étaient assez cruels. Alors on va vous faire écouter donc un extrait de ce roman de Maxence van der Mersch, La maison dans la dune.
La rue, pour un brave homme qui s'y promène tout à l'aise sans songer à mal, c'est un domaine essentiellement paisible et sûr qui peut présenter une agréable diversité, qui peut offrir des spectacles amusants ou dramatiques, mais où généralement l'on ne descend pas pour aller chercher l'inédit ou le romanesque. C'est la propriété de tout le monde s'y sent chez soi, chacun y vague sans la moindre alarme à ses occupations. Mais pour Sylvain, la rue était un champ de bataille. Il se le disait encore ce matin-là, en partant à vélo sous la pluie drue et froide pour aller livrer son tabac. Il s'était blatté, selon le mot des fraudeurs. Dans l'ouverture de sa chemise, il avait passé et placé en bon ordre, verticalement, deux rangées de 8 paquets de tabac. Ça faisait 4 kilos qu'il promenait ainsi sur sa peau. Là-dessus, il avait boutonné un vaste gilet, puis enfilé son pull de grosse laine. Et son veston bien serré sur le tout, il avait l'air de ne rien transporter. Tout au plus, lui aurait-on remarqué un léger embonpoint. Il devait livrer son tabac à Mardic. Il lui fallait pour cela couper à travers Dunkerque. Et pour entrer dans la ville d'abord, il descendit de vélo. Il feignit d'uriner contre une palissade et de là surveilla la cabane de l'octroi, attendant une occasion. Elle ne tarda pas. Tout un flot de voitures venait de passer. Le préposé rentrait dans sa guérite pour se mettre à sec une minute. Sylvain sauta sur son vélo, se lança à toute vitesse et passa devant la cabane à fond de train. Première passe franchie. Sylvain roula ensuite un bon moment à petite allure, les mains au haut du guidon, regardant à droite et à gauche de l'air d'un flâneur. Mais il voyait tout. Il remarqua deux hommes vêtus d'imperméables fatigués, les jambes prises dans des leggings, qui attendaient quelque chose, appuyés sur le cadre de leur bicyclette, placée en été derrière eux. Prudent, Sylvain fit accrocher. Passa par une autre rue. Tant qu'il était dans le centre de la ville près de la gare, la fuite lui était facile. Il pouvait aisément se faufiler dans le dédale des rues et égarer ses poursuivants. Il évita ainsi deux postes de noirs encore. Du bout d'une rue, il les reconnaissait. Il leur trouvait un air de famille avec leur imperméable, leur guêtre et leur casquette ou leur chapeau mou. Et ils avaient tous la même façon de placer leur vélo derrière eux, de s'appuyer assis à demi sur la barre du cadre et d'attendre, toujours au coin de deux rues le nez en l'air, feignant quelquefois de chercher le numéro d'une maison. Alors Sylvain faisait accrocher et contournait le barrage par une autre route. Il fit ainsi plusieurs détours par la rue du Maréchal Foch, la rue Jean Bart, la place Jeanne d'Arc, et il finit par revenir dans la rue de Paris qu'il devait suivre de bout en bout pour traverser la ville. À l'entrée de la grande artère, sur un pont, il s'arrêta encore, et avant de s'y engager, il étudia longuement la situation. C'est alors qu'il reconnut, très loin, au carrefour de la rue de Lille, Lourges, qui attendait avec un autre noir. Sylvain ne pouvait s'y tromper. Pour deviner ces gens-là, il avait un flair infaillible. Du premier coup d'œil, la silhouette massive de Lourges le frappa. Il fut sûr que c'était lui. Lourges était là depuis l'aube. Il avait depuis plusieurs jours qu'il venait se poster à cette place, car on lui avait signalé quelque chose. Un trafic suspect d'hommes à vélo et d'automobilistes aux environs d'un grand café qu'il s'entêtait à surveiller avec une obstination de bulldog. Il occupait son poste d'espionnage sans interruption du matin jusqu'au soir. Il dînait d'un sandwich que son camarade allait lui chercher. Il se laissait stoïquement percer sous l'averse, et mouillé, gelé, crevant d'ennui, il s'acharnait malgré tout, rageant de s'être laissé raconter des histoires, n'admettant pas qu'on eût pu le duper à ce point. Au désespoir de son camarade, il avait laissé passer de bonnes occasions, des individus suspects qu'il eût été intéressant de suivre, pour savoir où ils allaient, ce qu'il y avait dans leur paquet. Il s'entêtait. Il ne quitterait la place que lorsque sa certitude serait définitivement établie. Donc c'est un extrait de La maison dans la dune de Maxence Vandermeersch.
Et donc ici, comme vous avez pu le constater, eh bien c'était un peu le chat et la souris entre douaniers et contrebandiers, bien sûr. Mais il n'y avait pas que les hommes, bien sûr, qui transportaient cette marchandise illicite. Certains contrebandiers dressaient des chiens tout particulièrement pour traverser cette frontière. Et donc des chiens qui étaient chargés de paquets de tabac filaient, bien sûr... d'un poste à un autre, en évitant naturellement les chiens des douaniers. Et parfois, bien sûr, les rencontres étaient violentes, car souvent, c'était suivi par la mort de l'un des deux chiens. Et un ancien contrebandier me racontait que lui, il était toujours armé d'un gros bâton, qui lui servait, bien sûr, à se protéger contre les chiens des douaniers. Et il peignait l'extrémité de son bâton en blanc sur un bon tiers de la longueur de ce bâton, car ainsi le chien ne voyait pas le bout du bâton, et c'est ainsi que le chien, en voulant attraper le contrebandier, il se prenait le bâton bien souvent de la tête, et ainsi le contrebandier pouvait éviter les morsures du chien du douanier. Donc c'était une période très difficile et il faut savoir aussi que, eh bien, les contrebandiers, évidemment, savaient les gros risques qu'ils prenaient, parce qu'à l'époque, eh bien, souvent, le risque c'était bien simplement la prison et souvent même le bagne.
Weer is gebroken, weer een droom uiteengespat. Alleen de kroeg in gedoken en maar hopen dat ik alles vergat. Maar toen kwam jij voorbij, je ogen zeiden toen tegen mij: geef je leven zin, stap mijn wereld in, de weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen.
Radio Plus sur 104.3, la radio de votre région. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie Jou.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons donc le Schreve, donc la frontière qui sépare donc la Flandre et le Hainaut en deux parties depuis le traité d'Utrecht de 1713. Et donc, nous avons fait la lecture d'un extrait du livre de Maxence van der Merch sur la maison dans la dune, où on, bien sûr, il évoque eh bien cette ce combat, mais disons toute cette ruse des contrebandiers pour éviter les douaniers, et ces douaniers qui pouvaient bien sûr rester en poste pendant des fois des heures entières sous la pluie pour essayer bien sûr de tout simplement d'attraper les fameux contrebandiers et saisir leurs marchandises. Alors bien sûr, il y a toute une poésie hein, qui est romantique autour de ce thème. Bien sûr, souvent, eh bien c'est le contrebandier qui a un peu les faveurs des poètes. Et écoutons ici un poème de Guillaume Apollinaire concernant justement les contrebandiers.
La fuite, c'est la barque où s'enfuit une amoureuse reine. Le vieux roi magnifique est venu près des flots. Son manteau merveilleux à chaque pas égrène quelques bijoux tintant au rythme des sanglots. La chanson des rameurs sur les vagues se traîne. La reine et son amant l'écoutent les yeux clos, sans crainte d'un récif ni d'un chant de sirène qui s'incante peut-être au cœur des matelots. horreur, horreur, de nous des joyaux, des squelettes coulés au fond des mers, où surnagèrent tant de fleurs, de cheveux roux et de rames flottants parmi les troupes de méduses violettes. L'heure des fuites est sombre et violée d'effroi. Tant de gemmes tombées du manteau du vieux roi. 30 ans debout à la frontière, j'arrêtais le contrebandier, je palpais la contrebandière. Puis, quand je devins brigadier, un soir, dans le train de 10 heures, d'un homme correctement mis, voyant Jean avec un permis, je tâtais les gibbosités postérieures. Ô temps lointain, lointaine gare, que le gaz éclairait bien mal. Le monsieur transportait 4000 cigares. Je lui dressai procès-verbal. Ce temps passa, des noms, Gauguin, Cézanne, me hantaient. Pour leur art, je laissai la douane. Et gardant ce surnom, le douanier. Je ne suis pas des peintres le dernier, or, dans mon souvenir, une fenêtre s'est ouverte. Je viens de reconnaître l'ancien voyageur, fier de s'être vengé, parce que de ma faute, il a mal voyagé. Guillaume Apollinaire.
Et donc, qui chante bien sûr cette lutte entre contrebandiers et douaniers. Alors tous les contrebandiers, ils étaient loin d'être des Robins des Bois. Et d'ailleurs, heureusement que les douaniers nous protègent contre toutes ces marchandises à contrefaçon et d'autres biens produits dangereux pour notre santé. Donc hommage aussi à ces hommes qui protègent les populations et luttent contre des contrebandiers peu scrupuleux.
Denk ik steeds.
Franz Bauer, Have You Even For Me. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
La frontière qui sépare donc la France de la Belgique et qui a coupé donc le Hainaut comme la Flandre en deux parties. Donc depuis 1713. Alors cette frontière, donc qui est le résultat de la guerre, eh bien a aussi séparé des familles. Récemment, on a pu voir à la télévision, par exemple, justement cette frontière de Corée qui sépare la Corée du Nord et du Sud, où on a vu des familles du Corée du Nord retrouver après des décennies de séparation leurs membres de famille qui vivaient dans la Corée du Sud. Eh bien, certes, la frontière qui sépare la France et la Belgique n'est moins hermétique, elle est même plutôt poreuse, mais avec le fil du temps, évidemment, petit à petit, eh bien, les familles se sont tournées un petit peu le dos, tout simplement parce que les règles administratives, juridiques étaient différentes et ont bien sûr marqué petit à petit avec le temps les esprits. En outre, eh bien, il faut aussi souligner un fait important, à savoir que les Flamands du Sud, de Dunkerque, Bayeul, Hazebrouck, eh bien, il leur était interdit de parler leur Moedertaal, leur langue d'origine, qui était donc le flamand. Et évidemment, en France, c'était un pays, une langue, le français. On ne reconnaissait pas du tout les langues régionales et le flamand, donc de la Flandre du Sud, eh bien, était purement et simplement interdit. Et ceci en particulier à partir de la Révolution française, où donc seul le français était autorisé. Alors évidemment, le flamand est encore parlé un petit peu dans les campagnes, mais il n'était plus enseigné, donc il va s'appauvrir petit à petit. On le réduisait l'usage dans les cuisines et dans les étables, comme on disait. D'ailleurs, le flamand, qui était donc la langue maternelle des habitants de Berre, Bayeul, Hazebrouck, Steenvoorde, était purement et simplement non seulement interdit, mais on pouvait lire, par exemple, sur certains murs, cette phrase « interdit de parler flamand et de cracher par terre ». Donc c'est dire la répression qui a pu exister donc de ce côté-ci de la frontière. À l'école, le flamand n'était pas enseigné, pire même, puisqu'il était purement et simplement interdit de s'exprimer dans la cour de récréation en flamand. Les plus anciens me rapportaient que alors, eh bien, ils étaient punis, parce qu'ils s'étaient exprimés tout simplement avec leurs petits camarades dans la langue maternelle. Alors c'est ainsi que les gens de Berre, par exemple, ne pouvaient plus s'entretenir sans difficulté avec les gens de Poperinck, de Furnes, parce qu'ils ne se comprenaient plus. C'était une véritable barrière linguistique, bien malheureuse, puisque leurs ancêtres communiquaient ensemble le plus naturellement du monde. Donc cette barrière linguistique a certainement pesé encore plus lourd que les barrières administratives et juridiques. Et bien sûr, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était une erreur monumentale que d'avoir interdit l'enseignement de ce néerlandais, puisque aujourd'hui, le taux de chômage à Ypres, il est de 5%, à Dunkerque, il est plus du double. Et aujourd'hui, la ville de Dunkerque, justement, a décidé de remettre en priorité l'enseignement du néerlandais afin de faciliter tout simplement nos jeunes à retrouver un emploi tout près de chez eux, puisque avant, tout simplement, on parlait la même langue. Ça ne veut pas dire qu'on exclut de parler le français, mais de ne pas pouvoir parler le néerlandais, nous prive notre jeunesse de travail. Donc c'est aussi un des méfaits de cette frontière.
Obers hebben pauze, we zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we een zuid. Koning opa schiet eens uit de sloppen. En oma zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de
Vätern schalten die Schuhe. Und singen wir wie alle mal.
Entgoy! Wij vieren Feest, dus weg met de Malaise, want de eerste tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam.
Bij Hoevelaken, linksaf.
Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En Willem brengt maar liedje van Latte.
Je gaat van schrik steeds sneller spelen. De pianist gaat gillend onderuit.
De tuba blaast de drummer zijn toupee af. De dirigent slaat afluit uit een brok.
Licht uit!
Achter in de zaal gaat de piloot pas. De kastelein is zichtbaar van de koop. Hij trekt gauw aan de bel en geeft een rondje.
De glazen dansen op de bank.
Met de malaise, want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam.
Jongens, kan die deur even dicht? Mijn kop zit ertussen.
Wij zakken door, we zullen niet verdorsten. En Willem rijdt maar liedje van handen bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel.
En nou met de handen en de voeten, jongens, kom op, daar gaan we.
De staat te springen en te hossen.
De tent staat op zijn kop, de vloer neemt mee.
Marietje jodelt, wie kan mij verlossen?
Straks komt hier het plafond nog naar beneden.
Oh jee! Wij vieren het feest, dus weg met de manege. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam.
Hey, waar zijn ze?
Zullen niet verdorsten en Willem rijdt maar nietje van achter bij de schouders. Dat wordt weer lachen, dat wordt een dolle boel.
Eén biertje met mosterd graag, maar met schuim onderin.
Wij vieren feest, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam.
Ober, breng eens wat geld, ik wil af.
Oui, Harry Ribbons, vous interprétez la polonaise hollandaise. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure flamande, pardon, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et donc nous évoquions donc les conséquences de cette frontière où bien sûr la partie de la Flandre du Sud, eh bien il était interdit donc de parler le néerlandais, la langue maternelle. Et aujourd'hui, eh bien Dieu merci, les autorités ont pris conscience eh bien de ce temps perdu et aussi de cette nécessité d'apprendre eh bien simplement la langue du voisin, mais aussi la langue des sens. Des ancêtres, puisque Beer, Steenvoorde, Bayeul, eh bien, on parlait tout simplement le néerlandais à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, malheureusement, faute de connaître cette langue, beaucoup de personnes ne trouvent pas de travail alors qu'il y en a tout près de chez eux. Alors, c'est si ce traité de retraite, donc, il y a eu des conséquences sur la vie quotidienne des habitants, hein, puisque, évidemment, la Flandre, comme les Hainauts, ont été séparés. On a séparé des familles. On a obligé ainsi une partie de ses membres à vivre avec des gens avec lesquels ils n'avaient pas de destin commun, juste des échanges commerciaux. Les habitants de la partie annexée doivent se soumettre alors aux nouvelles règles. Et ça ne se passe pas toujours très bien. D'ailleurs, devant la répression, de nombreuses familles plutôt aisées quittent la Flandre du Sud pour s'expatrier aux Pays-Bas du Nord. Certains partirent même aux États-Unis, en Afrique du Sud. Il y avait encore, il y a quelques années, d'ailleurs, un estaminet qui portait comme titre le nom de Transvaal, donc d'où ce lien qu'il y avait donc avec ces familles qu'ils avaient quitté donc leur Flandre pour se réfugier dans des terres nouvelles. On n'apprend plus, bien sûr, à l'école l'histoire de la Flandre, mais celle de la France. Et c'est ainsi, par exemple, que Bouvigne, qui est pourtant donc une défaite sévère pour les Flamands de l'époque, et bien aujourd'hui, les descendants évoquent simplement que Bouvigne est une victoire. Ce qui est assez, c'est un peu du révisionnisme, que de voir cette affaire-là. Cette frontière que l'on désigne en flamand donc du mot de Schreve, Griffur, et bien sûr a marqué bien sûr les esprits. C'est comme une plaie. On a séparé une famille et on a du mal bien sûr quand on vient d'extérieur de comprendre pourquoi l'histoire ainsi séparait donc des familles, puisque quand on regarde et bien la numérotation téléphonique par exemple, et bien on voit bien ou qu'on visite d'ailleurs les cimetières, on s'aperçoit que c'est les mêmes noms, que ça soit du côté donc France comme du côté Belgique, et bien tout simplement donc c'est le même peuple qui a été donc séparé en deux suite aux guerres, et donc bien sûr les règles ont changé, et aujourd'hui grâce à l'Union européenne, et bien évidemment la situation change aussi grâce à l'euro qui facilite les échanges. Alors on peut bien sûr on va pas rêver que la Flandre et le Hainaut retrouvent leur unité. Je pense pas que Paris verrait ça d'un très bon œil, mais là ça serait le sujet d'une autre émission. Alors ici l'émission d'ailleurs touche bientôt à sa fin, et pour compléter un petit peu disons cette visite de cette évocation de la frontière, et je ne peux que vous inviter à visiter un musée qui est consacré donc le musée de la vie frontalière à Godvarsveld, donc qui est consacré bien sûr aux douaniers et aux contrebandiers, un musée qui est reconstitué avec bien sûr les matériels qui étaient utilisés à l'époque et qui vont ainsi vous permettre de mieux comprendre toute l'importance de cette frontière qui a marqué bien sûr les esprits des gens de notre région. Vous pouvez donc visiter ce musée qui se trouve donc à Godvarsveld au 98 rue de Calican. Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone pour vous assurer des heures d'ouverture. C'est le 03 28 42 50 06. 03 28 42 50 06. Et donc, je vous souhaite tout simplement une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus 104.3.